J'ai une très bonne question pour vous. Est-ce que le problème de l'humanité provient du système politique? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse claire et instructive aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Aujourd'hui, on termine les leçons qui sont tirées du livre de l'Ecclésiaste. Le Seigneur nous a donné beaucoup d'instructions dans ce livre. Il nous a enseigné plein de choses qui sont réellement pratiques pour notre vie. Je suis certaine que vous avez tous reçu autant que moi de la part de notre grand Dieu. Allons voir maintenant ce qu'il va nous enseigner suite à nos dernières questions dans ce livre. Après toute son expérience de la vie, qu'est-ce que Salomon conseille aux gens? Pourquoi est-il important de vivre pour la gloire de Dieu dès notre jeune âge? Est-ce que la vieillesse a des effets psychologiques sur les gens? Est-ce que notre âme retourne à Dieu après la mort? Est-il important d'appliquer notre cœur à la sagesse? Est-ce que le problème de l'humanité provient du système politique? Quelle est la conclusion de Salomon après avoir expérimenté tout ce qui se fait sous le soleil? Est-ce que Dieu jugera tous les hommes un jour? Pourquoi est-il important de venir à Dieu quand on est jeune? Restez là, le pasteur Régent Joly est sur le point de nous partager ce que Dieu veut nous enseigner en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Oh, merci Seigneur pour chaque livre de la Bible, et en particulier ce livre de l'Ecclésiaste, où tu nous as enseigné encore tellement de belles choses. Alors en cette dernière journée dans ce livre, continue, Seigneur, de parler à nos cœurs. Enseigne-nous à avoir de la sagesse dans nos pensées, dans nos rapports avec les autres, dans nos actions. Enseigne-nous, Seigneur, pour ta gloire. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que les personnes moralistes peuvent avoir des langues de vipère. Les personnes moralistes mènent une bonne vie et elles se tiennent au point milieu entre une consécration à Dieu et une vie de débauche. Elles ne sont ni chaudes ni froides pour les choses spirituelles. Ces personnes peuvent se virer contre vous si vous les contrariez. Nous avons aussi parlé des personnes qui parlent beaucoup dans les réunions. Une telle personne essaie d'impressionner les gens. Cependant, ce sont des paroles de grâce que Dieu nous invite à prononcer. Nous avons mentionné qu'un pays a besoin de chefs d'État qui prennent leurs responsabilités au sérieux. Cependant, qu'importe ce que notre élite politique fait, Dieu nous demande de respecter les autorités qu'il a établies. De plus, nous avons souligné le fait qu'il n'y a pas de motivation à travailler si nous croyons qu'après la mort, il n'y a plus rien. Nous devons aussi planifier notre vie afin de glorifier Dieu. En fait, le jeune homme et la jeune femme font des choix et prennent des décisions qui détermineront si leur vie sera vaine ou non. Nous avons expliqué que nous ne devons pas laisser l'incertitude face à l'avenir nous paralyser. Nous devons agir avec sagesse et faire confiance à Dieu pour les détails que nous ignorons. Nous avons terminé en affirmant qu'il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour venir à Dieu. Le roi Salomon a suivi plusieurs pistes pour trouver le contentement de son âme. La science ou la connaissance, la sagesse ou la philosophie, les plaisirs, le matérialisme, le fatalisme, l'égotisme, la religion, les richesses et une bonne vie morale. Aujourd'hui, nous terminons l'étude du livre de l'Ecclésiaste. Et dans ce 12e et dernier chapitre, nous trouvons la conclusion à laquelle Salomon est arrivé après toutes ses expériences. Il est bon d'être très attentif à cette conclusion du livre de l'Ecclésiaste, car nous sommes comme Salomon, nous cherchons à droite et à gauche pour trouver un sens à la vie, et surtout afin de pouvoir participer et de tirer le meilleur de cette vie. Alors ce chapitre s'adresse aux jeunes gens ainsi qu'aux personnes âgées, autrement dit à tous ceux qui sont à l'écoute de cette émission. Nous pouvons tous en profiter pleinement. Chers amis, débutons notre lecture, Ecclésias chapitre 12, verset 3. « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Salomon conseille aux gens de revenir à Dieu. Puisque rien sous le soleil ne peut combler le cœur humain, Salomon conseille de retourner à Dieu. Reviens à Dieu lorsque tu es jeune. La raison pour le faire est évidente. Salomon trace un portrait de la vieillesse qui n'est pas très joli. Cependant, ce portrait est fidèle à la réalité. Les théologiens libéraux et les sceptiques affirment croire en une religion du moment présent. Selon eux, il faut vivre pour le moment présent, et l'au-delà ne les intéresse pas. Cependant, nous avons une religion pour le moment présent. Elle consiste à développer une relation avec Dieu et de vivre pour sa gloire. Pourquoi devrions-nous vivre pour la gloire de Dieu? Jetons un coup d'œil sur le portrait de la vieillesse qu'a tracé Salomon. Ecclésias 12, verset 4. « Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. En vieillissant, notre corps perd ses capacités. Ces astres ne s'éteignent pas, mais en vieillissant, nous ne les voyons plus aussi bien. Parfois, nous devenons aveugles. Le temps passe, et une expérience triste n'attend pas l'autre. » Les nuages reviennent après la pluie. Lorsque nous vieillissons, nous pouvons sortir et passer une belle journée en participant à une activité. Cependant, nous devons nous reposer 2 ou 3 jours ensuite. Les activités que nous aimions nous épuisent et nous devons réduire la fréquence. Les nuages reviennent après la pluie. Lisons ensemble le verset 5 d'Ecclésias, chapitre 12. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis. Ce verset est une description d'un corps humain âgé. Les gardiens de la maison tremblent. Le roi Salomon parle des jambes. Une personne âgée vacille sur ses jambes. Les gens de son entourage aident un vieillard à monter et à descendre d'une automobile parce que ses jambes ne le portent pas aussi bien qu'avant. Il doit être prudent s'il monte une échelle. Parfois, une personne âgée a besoin d'une canne. Les hommes forts se courbent, précise le texte. C'est ainsi que Salomon décrit les épaules. L'homme âgé ne se tient pas toujours droit comme auparavant. Celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. En vieillissant, une personne perd ses dents. Elle doit porter des prothèses dentaires. Ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Notre vue diminue avec l'âge. Nous avons besoin de lunettes ou des lentilles cornéennes. Et c'est le cas pour celui qui vous présente ce message aujourd'hui. Il doit porter des verres, une paire de lunettes. Oui, chers amis, moi aussi, mon corps vieillit et le vôtre. Soyons prêts, tournons-nous vers Dieu, implorons sa miséricorde aujourd'hui. Les personnes âgées éprouvent plus de difficultés à reconnaître les gens. Même avec des verres correctifs, notre vue n'est jamais aussi bonne qu'elle l'était auparavant. Revenons à notre texte, lisons maintenant Ecclésias 12, verset 6. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ. Les deux battants de la porte se ferment sur la rue. En vieillissant, une personne entend moins bien. Parfois, elle a besoin d'un appareil auditif. Les bruits de la rue ou des gens qui sont actifs dans la maison ou autour de celle-ci, semblent moins forts. On se lève au chant de l'oiseau. Lorsqu'une personne est jeune, le bruit ne la dérange pas. Un réveil matin ne suffisait pas pour nous réveiller. Les cris des enfants ne dérangent pas un jeune couple. ni le bruit qui vient de chez les voisins. Mais lorsqu'une personne prend de l'âge, des petits bruits la dérangent. Lorsqu'elle voyage et se présente à un hôtel, elle demande une chambre dans un endroit tranquille. Le texte poursuit en disant où s'affaiblissent toutes les filles du champ. Les cordes vocales ne sont plus ce qu'elles étaient. En fait, très peu de personnes âgées chantent dans une chorale. Même les personnes qui avaient des voix merveilleuses n'y échappent pas. La vieillesse a ses effets psychologiques. Nous avons vu les effets de l'âge sur le corps humain, et maintenant, nous examinerons un aspect plus tragique, soit les effets psychologiques. Lisons maintenant le verset 7 d'Ecclésiaste, chapitre 12. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. On redoute ce qui est élevé. En vieillissant, nous devenons plus craintifs. Une personne peut craindre de prendre l'avion, où elle craint maintenant les hauteurs. Lorsqu'une personne était jeune, elle marchait dans la rue sans craindre personne. Maintenant, elle peut hésiter à sortir seule ou à marcher sans être escortée. On a des terreurs en chemin. Lorsqu'une personne était jeune, elle marchait dans la rue sans craindre personne. Maintenant, elle peut hésiter à sortir seule ou à marcher sans être escortée. Elle se sent moins en sécurité en voyage, et elle craint des choses auxquelles elle ne prêtait pas attention autrefois. Le texte continue en disant « l'amandier fleurit ». Un amandier fleuri est blanc. Une personne âgée qui n'a pas les cheveux blancs est chauve. Aujourd'hui, on peut teindre ses cheveux, mais masquer la réalité ne la change pas. Le texte nous dit aussi que la sauterelle devient pesante. Lorsqu'une personne vieillit, les petites choses qui ne la dérangeaient pas deviennent agaçantes. Les grands-parents aiment leurs petits-enfants, mais lorsqu'ils repartent, ils se sentent parfois soulagés. Ils n'ont plus la même énergie, la même endurance et la même patience. Tout le monde sait ça. Tout le monde s'aperçoit de ces changements. Ce sont des signes de vieillissement. Et chacun d'entre nous devra passer par là. Oui, chers amis, que ce soit toi, que ce soit ton voisin, que ce soit peu importe la personne qui écoute cette émission, un jour, tu seras vieux, vieille. Alors, pourquoi pas ne profiter de cette jeunesse ou de ce temps que tu as devant toi pour te tourner vers Dieu. Revenons au texte qui nous dit « la capre n'a plus d'effet ». La Bible en français courant a traduit cette expression par « les épices perdent leur saveur ». Les choses n'ont plus le même romantisme qu'autrefois. Si une personne âgée essaie de se comporter comme si elle était encore jeune, elle ne trompe personne. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues. La mort approche. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 8. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Nous avons ici une description des organes du corps humain qui se détériorent. Le cordon d'argent, c'est l'épine dorsale. Le vase d'or, c'est la tête. Notre cerveau ne fonctionne plus aussi bien avec l'âge. Le seau, c'est les poumons, et la roue et le cœur. Nous avons une description de la détérioration du corps humain avec l'âge, et cette détérioration entraîne la mort. La vie ne peut continuer sans que ses organes fonctionnent. Nous poursuivons notre lecture. Verset 9 d'Ecclésiaste, chapitre 12. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'âme retourne à Dieu après la mort. L'âme ne sommeille pas après la mort. Des gens utilisent des versets de l'Ecclésiaste que nous avons étudiés dans les émissions précédentes pour essayer de prouver que l'âme dort. Ces personnes devraient lire l'Ecclésiaste jusqu'à la fin. Ce verset dit que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est le corps qui dort en attendant le retour de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament enseigne qu'être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Nous sommes pleins de confiance. Aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Citation de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Après la mort, l'âme retourne immédiatement auprès du Seigneur. Notre corps est une tente pour notre âme qui y vit. Nous retournons dans le livre de l'Ecclésiaste et cette fois nous lisons le chapitre 12, verset 10. « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Appliquons notre cœur à la sagesse. Jeune personne, la vie est vaine et inutile si vous vivez seulement pour le moment présent. Un jour, vous vous trouverez avec une poignée de cendres dans les mains et l'éternité devant vous. Toutes vos œuvres auront été consommées au jugement dernier. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. » 1 Corinthiens chapitre 3, versets 14 et 15. Dans un de ces rares psaumes, Moïse a dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Le psaume 90, verset 12. La sagesse, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. L'aimons-nous? Puisse le Seigneur nous donner la grâce de vieillir gracieusement. Puissions-nous ne pas terminer notre vie dans l'amertume, la rancune et la colère? Ecclésiaste 12. Cette fois, nous lisons les versets 11 à 13. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et, rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. Nous ne devrions jamais mépriser la sagesse d'autrefois, et nous ne devrions pas refuser qu'on nous enseigne. Verset 14. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Le problème de l'humanité est un problème de cœur. Pendant des années, nous entendions dire que l'éducation améliorerait le monde. Nous l'entendons moins souvent aujourd'hui. Le constat d'échec est facile à faire. Le problème de l'humanité est un problème de cœur, pas de société ou de système politique. Ecclésiaste 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Crains Dieu. C'est aussi le message du livre des Proverbes. Après avoir expérimenté avec tout ce qui se fait sous le soleil, le roi Salomon a conclu que la chose sage à faire était de craindre Dieu. Nous devons le craindre, l'adorer et lui obéir. Observe ses commandements. Le grand commandement de Dieu est de l'aimer. Faire la volonté de Dieu, c'est croire en son Fils Jésus-Christ et le recevoir comme sauveur par la foi. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Citation de l'évangéliste Jean chapitre 6, verset 29. À toutes les époques de l'histoire, Dieu a simplement demandé que l'on satisfasse ses conditions pour le salut en plaçant notre foi en lui. À Caïn, il a demandé de sacrifier un agneau, une image du sacrifice de son fils sur la croix. À la nation d'Israël, il a demandé de l'approcher au moyen de sacrifices présentés au tabernacle ou au temple. À nous, il ordonne « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Acte 16, verset 31. Nous terminons notre lecture d'Ecclésiaste 12 par le verset 16. « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Dieu jugera tous les hommes. « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. » Oui, Dieu jugera tous les hommes, car nous sommes tous des pécheurs coupables à ses yeux. Jésus-Christ a accepté d'être puni à la place de ceux qui auront cru en lui. Si nous rejetons le Fils, nous devrons subir le châtiment éternel, et personne ne pourra donner sa vie en rançon pour la nôtre. Venons à Dieu alors que nous sommes jeunes. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Pourquoi? La proportion de jeunes qui se convertissent est plus élevée que celle des personnes âgées. De plus, les jeunes peuvent offrir des années de service au Seigneur et amasser un trésor dans les cieux. Joseph, Moïse, Gédéon, David, Jérémie, Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, et Timothée sont des exemples de personnes appelées alors qu'ils étaient jeunes et qui ont servi pendant de nombreuses années. Les statistiques démontrent que plus de gens se convertissent à un jeune âge qu'à un âge avancé. Mes amis, le monde, les gens qui vivent sous le soleil, ne peuvent vous proposer quoi que ce soit qui contentera votre âme. Jésus-Christ est la solution que Dieu propose au problème de la vie et du péché dans notre cœur. Jésus a promis, « Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » L'Évangile selon Jean chapitre 6, verset 37. Dieu nous a créés et il nous demande de revenir à lui. Il nous aime et il nous propose de changer notre cœur de pierre par un cœur de chair. Il a fait cela en nous régénérant lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ par la foi. Il nous donne une nouvelle nature spirituelle. Après cette transformation radicale, nous le servons et nous cherchons sa gloire. Tant que nous ne développerons pas une relation personnelle et intime avec notre Dieu, notre âme ne sera jamais comblée. Je vous invite à lire la Bible régulièrement si vous ne le faites pas déjà. Vous y trouverez un portrait du Seigneur Jésus-Christ, de sa personne et de son œuvre. Si vous n'avez jamais lu la Bible, je vous suggère de commencer par les Évangiles et le Nouveau Testament. Nous y découvrons l'amour de Dieu, un amour qui ne fut jamais si merveilleusement manifesté que dans la mort du Fils sur la croix. C'est ainsi qu'il a donné sa vie en rançon pour tous ceux qui croiraient en lui. Lorsque vous lisez, demandez à Dieu de vous éclairer par son Saint-Esprit. Par une courte prière, vous n'avez qu'à lui dire, « Dieu, éclaire-moi, dirige-moi dans ma lecture, dans ma réflexion sur les textes de la Bible. » Seul l'Esprit peut ouvrir notre intelligence aux vérités spirituelles. L'homme naturel ne les comprend pas. Je me souviens qu'après ma conversion, j'ai compris des passages des Écritures que je ne comprenais pas auparavant. Ou alors, on m'en avait donné une explication naturelle. Et l'Esprit de Dieu, m'a fait comprendre le sens spirituel de ces mêmes textes. Voilà pourquoi je vous encourage à prendre la Bible, à la lire, à la méditer et surtout à prier pour que ces paroles deviennent réelles dans votre vie. Dieu nous a fait une belle promesse par la bouche du prophète Jérémie. La voici. Soyez attentifs à ces paroles. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie chapitre 29, verset 13. Et dans le Nouveau Testament, nous lisons « Frappez, et l'on vous ouvrira. Cherchez, et vous trouverez. Demandez, et vous recevrez. » Et le Seigneur Jésus lui-même a promis de nous accueillir. C'est ce que nous dit l'évangéliste Jean, chapitre 6, verset 37. « Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Qu'allez-vous faire de toutes ces promesses de la parole de Dieu, de Dieu lui-même, de Jésus-Christ? Il vous invite à l'accueillir, à le recevoir comme sauveur et seigneur de votre existence, et il promet de prendre soin de vous en tout temps, en toute occasion. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, un nouveau livre, le livre « Le Cantique des Cantiques », que vous puissiez le lire attentivement.
Merci, Régent. Je me reconnais dans plusieurs choses que tu as partagées aujourd'hui. Voyez-vous, mes amis, j'en suis à ma dernière année dans la cinquantaine et je peux personnellement constater qu'en vieillissant, on devient un peu plus craintif dans certains domaines. Par exemple, depuis plusieurs années, Je vais au New Jersey l'été pour mes vacances. Autrefois, je voyageais toute seule pendant 8 heures pour arriver à destination chez ma sœur qui habitait au bord de l'Atlantique. Ma sœur est décédée en l'an 2000, mais je continue la tradition chez ma nièce qui demeure elle aussi au bord de la mer. Il y a 2 ans, j'ai fait le voyage en auto comme d'habitude, mais rendu à environ 1 heure du petit village de Seabright, j'étais sur une autoroute d'environ 6 voies et je me suis mise à craindre de prendre la mauvaise voie qui aurait pu allonger mon voyage de 2 ou 3 heures, alors que j'étais déjà pas mal épuisée. Heureusement, le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants et ne nous laisse pas seuls. J'ai crié à lui, j'ai dit « Seigneur, viens à mon secours !» Et il m'a dirigée. Et je me suis rendue à destination sans problème. Mais il reste que je me sens maintenant plus craintive quand je suis seule pour aller loin de chez moi, comme à cet endroit au New Jersey. Je me souviens aussi de la fin des années 60, au début des années 70. J'habitais alors à Outremont et j'avais des amis à Rosemont. Parfois, je partais à pied pour les visiter. Ils demeuraient à environ 1/2 heure à pied de chez moi. J'allais souvent le soir pour me rendre un peu plus vite. Je prenais des raccourcis en passant par des ruelles toutes sombres. Il ne me venait jamais à l'idée que ma vie pouvait être en danger. Croyez-moi, maintenant, je ne ferais jamais ça. En vieillissant, on est plus peureux ou disons qu'on est peut-être un peu plus prudent. C'est sûr qu'on acquiert de la sagesse avec l'expérience de la vie aussi. Et comme Régent l'a aussi mentionné aujourd'hui, en vieillissant, on n'a plus la même énergie ni la même endurance. Je dois maintenant cesser certaines activités afin de garder mon énergie pour les choses les plus importantes, celles que Dieu continue de me mettre à cœur, celles que je peux faire avec joie, celles où je vois Dieu agir en moi et à travers moi. Par exemple, c'est réellement une grande joie pour moi de vous parler, chers auditeurs, chaque fois que j'en ai l'occasion, par le biais de la radio. Et en passant, je veux vous remercier pour votre fidélité à écouter nos émissions régulièrement. Je peux vous dire que je vous aime sans vous voir. Et mon extrême joie, c'est de savoir qu'un jour, je vais réellement voir plusieurs d'entre vous quand on sera réunis avec notre Sauveur merveilleux, le Seigneur Jésus, celui en qui on a cru, celui qu'on a reçu dans nos cœurs, celui qui a payé la dette de nos péchés à la croix. J'ai hâte de vous voir là-haut, mais j'ai surtout hâte, comme vous, de voir le visage de mon Sauveur merveilleux. Ce Jésus dont les yeux sont maintenant comme une flamme de feu, ce Jésus merveilleux qui a porté une couronne d'épines pour nous, qui est mort sur la croix pour nous, mais qui porte maintenant sa belle couronne de gloire.
Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste.
Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance?
Dans la série radiophonique À travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel.
Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long?
Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire.
Alors, on n'a pas besoin d'autres livres?
La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule.
Ah,
pour en faire
compliqué.
La correction, parce que les gens pourront suivre cette série.
Ah, c'est pas compliqué.
Très simple.
J'ai vraiment le goût de m'inscrire.
Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone
1-877-LESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel
www.radioespoir.ca. Adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.